je crois qu'on va, commencer un petit peu en avance, parce que comme ça, de toute façon, c'est plein. Donc, bah écoutez, merci d'être là si nombreux. C'est vrai qu'il y a un petit changement de programme ce matin. On est désolé, normalement, on avait convenu avec Aliénor d'avoir une salle un petit peu plus grande. Voilà.
Et donc on se retrouve. Calendrier.
Voilà, et donc on se retrouve là. Bah finalement, on est un peu serré, on se tient chaud. Voilà, mais ça va bien se passer. Donc je vous remercie d'être là et de commencer votre journée avec nous. Aujourd'hui, c'est le 49e Réveil Créatif. Donc on espère que vous serez avec nous le mois prochain pour fêter le 50e. Donc notre invité aujourd'hui est donc Solange Oswald, donc comédienne, metteur en scène, cofondatrice du groupe Merci. Alors, il faut que je vous raconte un peu. Enfin, quand organiser Réveil Créatif, c'est pas toujours de tout repos. Faut trouver des invités, les convaincre de se lever tôt. Après, une fois qu'on les a convaincus de se lever tôt, il faut trouver un lieu. Donc, on a vu aujourd'hui qu'il y a des petits, voilà, et qu'on a trouvé un lieu, la date du lieu va, mais la date de l'invité va pas, etc., etc. Enfin bon. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Et en fait, quand on a rencontré Solange en début d'année, en fait, c'était un peu comme la pêche miraculeuse, parce que on a fait d'une pierre deux coups. On l'a rencontrée et premièrement, elle a accepté de nous recevoir donc pour organiser un réveil créatif au Pavillon Mazarin.
Oui, mais alors, excuse-moi, parce que justement, je suis pas prête. Non, mais j'ai pas eu le temps d'enlever ma chemise de nuit ni mon.
Je termine juste l'intro et je te passe ta parole.
Oui, mais je suis pas prête, c'est ça le problème. Voilà.
Ah, je suis déstabilisé là. Donc on a été reçus donc au pavillon Mazarin. Donc c'est Serge Bourras qui était là ce jour-là. Donc c'était il y a deux mois. Et puis là, la pêche miraculeuse à Solange a accepté de venir nous parler ce matin. Donc avant de passer la parole à Solange, donc peut-être un petit mot de remerciement. Donc remerciement à Ombre Blanche et à toute l'équipe de nous recevoir aujourd'hui. Remerciement également à nos sponsors, on va dire Milan Presse, donc qui nous soutient depuis le début, Picto Toulouse qui nous fait des affiches et des kakémonos, Saveur et Harmonie qui nous offre le thé et le café. Voilà pour les merci. Et puis Solange, si vous êtes
Non, je suis pas prête, mais bon.
Bon, bah, en tout cas, je vous passe la parole pour une vingtaine de minutes, puis après on échangera avec
vous. Oui, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'enlever ma chemise, alors. Puis j'ai fait un masque. Souvent le matin, je me fais un masque avec de l'argile. Bon, ben, je l'enlèverai tout à l'heure. Alors, j'ai amené mon journal, un journal que j'écris parfois. J'ai amené des poèmes, on ne sait jamais si j'arrive pas à remplir 20 minutes. Voilà. Ça va ? Ça va ? Vous m'entendez ? En fait, le réveil créatif, enfin, je trouve ça bizarre hein, quand même, mais bon, ils m'ont demandé de parler de ce qui, chez moi, peut-être active la créativité. Vous voyez, comme thème, hein, c'est lourd. Mais donc, moi, je vais vous parler un tout petit peu. Je sais pas, je suis obligée de parler de mon jardin secret, finalement, parce que je pense que tous ceux qui créent font référence à des moments comme ça, lumineux, qui ont éveillé ça. Je pense que tout le monde est créatif, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, bon. Moi, je vais commencer par mon enfance. En fait, j'ai eu vraiment une enfance sombre, assez terrible, assez désolée. Et si je parle de mes sensations, j'avais l'impression d'avoir une espèce de bloc d'angoisse à la place du cœur, une espèce de chose qui m'enserrait comme ça. J'étais très angoissée. Et en fait, Je ne sais pas, vous savez, cette sensation qu'on a quand on a une herse dans le cœur, quelque chose qui vous griffe le cœur. Et j'avais qu'une idée, toujours, c'était de mourir pour renaître. Vraiment, j'avais cette idée, je voulais disparaître. Et cet exercice de disparition, j'ai passé ma vie à faire un exercice de disparition, qui est une chose quand même un peu acrobatique, hein, de disparaître. Pas facile. Et donc, j'ai... Comment vous dire ? J'ai eu deux ou trois expériences qui m'ont sorti de cette mélancolie. Et je vais essayer de vous les raconter. Voilà. Alors, la première expérience, je me rappelle, j'avais peut-être 4 ou 5 ans. J'ai rencontré un monsieur qui était très bienveillant et qui m'a fait faire des bâtons sur un cahier. Des bâtons. Et alors, je j'arrêtais pas de faire des bâtons. J'ai fait, je sais pas, une semaine de bâtons remplis des cahiers de bâtons. Et puis, quand on a eu fini les bâtons, on a fait des jambages, je m'en rappelle très bien. Et puis, des ovales. Et en fait, à la fin, évidemment, vous vous en doutez, on a commencé à écrire des mots. Et pour moi, je ne peux pas vous dire une expérience carrément mystique. C'est-à-dire arriver à former des lettres et à former des mots, puis des phrases, c'était une expérience, mais vraiment incroyable. J'ai découvert qu'on pouvait vraiment parler en silence, finalement. Et comment vous dire, j'ai toujours eu un fétichisme de l'écrit. Dans les amours, dans le travail, etc. J'écris. D'ailleurs, c'est pour ça que j'écris. Voilà. Et ça, c'était la première expérience. Puis j'en ai eu une autre aussi, qui était peut-être plus amusante. C'était quand j'étais à l'église protestante. J'ai été élevée chez les protestants. Et à Noël, avec le chœur mixte, vous savez, il y a la tradition des chœurs mixtes où on chante, etc. Et il y avait, dans le temple protestant, on avait élevé un immense sapin de Noël qui peut-être faisait 13 mètres de haut. C'était monstrueux, un immense sapin qui illuminait complètement le temple. Et moi, j'avais été choisie pour faire un duo avec un petit garçon qui était copain. Et moi, on m'avait accroché sur le ventre une étoile, comme ça. Et j'étais très, très fière parce que je montrais mon étoile à tout le monde. Et puis, le petit garçon, lui, faisait l'ange Gabriel. Vous voyez, déjà, c'est formidable, ça, d'être une étoile avec un ange. Et puis, on chantait Gloria, je me rappelle. Et là, m'exposer comme ça, comme j'ai imaginé que j'étais la plus belle, quoi. La plus belle petite fille, ce qui était complètement faux. Hein. J'étais sûrement la plus moche, mais j'ai eu une expérience, on pourrait dire carrément d'élévation. J'avais l'impression d'aller dans un autre monde, quoi, de m'élever, d'aller ailleurs. Et cette expérience, elle m'est toujours restée, mais elle est imprimée en moi. Et donc, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que je fais du théâtre. Ça paraît vraiment idiot. Mais en tout cas, j'ai eu cette expérience de passer ailleurs, voilà, de passer ailleurs pour mourir, pour renaître, comme on fait, nous, les acteurs. Et bon, ben voilà, je vous raconte ça parce que c'est sans doute la base de ce qui m'a enclenché de faire de la création. Parce que, bon, la créativité, c'est une chose, tout le monde l'a. Hein. Moi, j'ai un côté, par exemple, mode et travaux, ceux qui me connaissent. Je crée des sacs, je crée du crochet, etc. Mais c'est pas vraiment ça, pour moi, la création. La création, c'est quand on s'intéresse vraiment aux formes. Et donc, je pense que... Je me rappelle d'une phrase de Louise Bourgeois qui disait... c'est tout simplement, l'art, c'est tout simplement de mettre en forme sa douleur. Et moi, j'y pense à chaque fois que je fais de la mise en scène, je pense à ça, je me dis, bon, la douleur, c'est indicible, ça désespère tout le monde, etc. Il faut absolument trouver une forme pour la raconter. Alors, je me dis toujours ça, je me dis aussi, il faut trouver une forme pour la raconter, il faut trouver une transposition, il faut... Voilà. Elle dit aussi que l'art, c'est tout simplement la répétition d'un traumatisme. Et je trouve ça aussi très, très juste, parce que si je vous ai raconté une enfance malheureuse que je ne peux pas dévoiler dans son ensemble, mais je pense que je puise là-dedans pour pouvoir accepter les désillusions. Quoi, c'est ça, finalement. Le théâtre, c'est écrit pour accepter la désillusion, hein, les poèmes aussi. Donc voilà, ben, j'ai parlé de l'enfance. qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Je ne sais pas, je peux parler de l'adolescence. Alors, l'adolescence, ben, ça se passe toujours très mal, quoi. Hein. Donc, moi, j'étais pas faite pour ce monde-là, quoi. Je détestais le monde et je détestais l'école, surtout. Donc, d'ailleurs, je vais en partir très, très vite parce que j'ai toujours détesté l'école. Et je suis partie de l'école à 16 ans. À l'époque, c'était légal. Non, c'était 14 ans, pardon. Et après le brevet, vous savez. Et en fait, à l'adolescence, alors là, je découvre la politique. Hein, vous savez, le militantisme. Et puis surtout, alors après, je découvre le théâtre. Voilà. Alors, le théâtre, c'était un choc extraordinaire. D'abord de le regarder. Et puis, je pense qu'avant d'aller au théâtre, j'avais découvert la poésie. Et j'adore les poèmes. C'est pour ça que je vous en ai amené, si jamais on a le temps. Mais j'adore la poésie. Pour moi, dans ma bibliothèque, par exemple, c'est central. Chaque fois que je déménage, je mets la poésie au milieu. Et j'adore l'anarchie des mots, les subvertir, les mettre dans tous les sens, faire des fautes, hein, puisque finalement, c'est ça. On fait des fautes de grammaire, on fait des fautes. Et enfin, on peut faire des fautes, quoi. Oui, alors donc je dis des poèmes, vous savez, comme tous les ados, quoi. Je fais les clubs, genre les clubs de poésie. Ça n'existe plus tellement, mais nous, il y avait tout le temps partout, dans les maisons et tout ça, des espèces de clubs des poètes. Vous voyez, c'était un peu cucu, mais bon, c'était bien en même temps. Et quoi d'autre ? Ben oui, alors donc je découvre le théâtre, on m'emmène au théâtre. Je me rappelle la première pièce que j'ai vue, je crois que c'était Le Misanthrope. Bon, j'y comprenais rien, parce que c'est compliqué quand même, quand on est très jeune, de comprendre Le Misanthrope. Mais ça m'a donné le goût d'aller m'inscrire dans un cours de théâtre. Et là, justement, je découvre une chose absolument incroyable avec le fait que je peux jouer sur une scène. Je trouve un truc incroyable, c'est que tout d'un coup, je peux être tout ce que je veux. Comme la vie ne me plaisait pas, je peux être tout ce que je veux. Je peux inventer tout ce que je veux. Je peux jouer tous les sentiments, je peux être tous les personnages. Je peux... Alors, évidemment, avec les vertus du masque. Alors, le masque, c'est formidable, parce que le masque, si vous voulez, il vous permet... Oui, il faut que je parle un peu du masque, tiens. Je vais parler un peu du masque. Le masque, c'est une chose magnifique, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on a dans la tête le ciné. Mais quand on va au théâtre, les personnages sont masqués en réalité, même si vous ne le voyez pas. C'est-à-dire qu'un acteur, par exemple, il fait comme ça, puis il met un masque. Il met le masque du personnage, il met le masque des personnages, mais il peut mettre tous les masques qu'il veut. Hein. Il peut être, par exemple, la femme qui pleure. Il met les mains comme ça, puis elle ne va pas arrêter de pleurer pendant 3 jours. Il peut être, alors, les éléments. Évidemment, hein, le vent, la pluie, la terre, le feu, il peut être les animaux. Et ça, pour moi, c'était une découverte, mais absolument incroyable. C'était comme une renaissance. Tout le monde le sait, tout le monde le fait, de s'amuser à être autre. Mais quand on en fait véritablement un exercice, une assaise, alors là, ça devient merveilleux. Moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, vraiment. Puisque finalement, on invente une dimension qui est l'imaginaire, on peut aller où on veut, et la vie, enfin, devient acceptable. Enfin, pour moi, c'est ça, elle devient acceptable, puisque je suis complètement mobile à l'intérieur, je suis... voilà, alors ça a été une découverte incroyable, et ça ne m'a jamais quitté, comme l'écrit ne m'a jamais quitté, comme la poésie ne m'a jamais quitté. Voilà, ça c'est l'expérience du masque. Ah oui, je peux vous raconter quelque chose sur le masque que je raconte souvent à mes élèves parce que j'enseigne beaucoup. Et je leur dis toujours que, en fait, on met un masque, on se cache pour se révéler, pour se dévoiler. Et ça, c'est un paradoxe étonnant, non ? C'est-à-dire, je mets un masque et je peux enfin être moi aussi à l'intérieur. Je peux, c'est pas que je peux être moi, mais je peux être dans mes sensations, les sensations d'enfance, les sensations, l'enfance, la naïveté. Et donc, je peux, enfin, je peux véritablement, parce que je suis cachée, je peux me montrer. Et je connais une anecdote sur le masque. Enfin, ce n'est pas une anecdote, c'est, je crois que c'est un ethnologue qui a écrit ça. Un jour, je lisais sur les masques. Il racontait qu'un jour, un homme, il explique que, pourquoi le masque. Alors, il dit, un homme, un jour, ramasse une pierre et il va la lancer pour tuer une proie. Et en fait, au moment où il va lancer cette pierre, il découvre le projet. C'est-à-dire qu'il découvre ce que ça va faire après. Et donc, il découvre la notion du temps. Et en découvrant la notion du temps, il découvre aussi la notion de la mort. Donc, le masque serait un instrument qui serait fait pour se réconcilier avec le temps où on ne connaissait pas la mort, le temps d'avant. Et moi, si je vous raconte tout ça, c'est que je pense que depuis l'enfance jusqu'à maintenant, ce temps d'avant, le temps des possibles, le temps de pas encore né, le temps de avant la naissance et tout, ça m'a tout le temps sous-tendu. Ça donne une espèce de fraîcheur incroyable de vouloir renaître tout le temps. Donc voilà, je vous raconte cette histoire du masque parce qu'elle m'a beaucoup touchée comme histoire. Je ne sais pas si elle vous touche, vous. C'est beau, non, cette histoire? Je ne sais pas quoi, j'ai encore du temps ou quoi? Parce qu'on m'a dit que le temps était très important, justement. Je ne comprends pas, là, ce truc. Je suis à 52. Ah oui, d'accord. Oui, je ne sais pas. Moi, je ne sais plus trop quoi vous dire d'autre, hein. Après, j'ai commencé à la maturité. Bon, quand je dis la maturité, c'était peut-être déjà le début de la vieillesse, parce que moi, j'ai mis longtemps pour devenir vieille, en fait. C'est vrai. J'ai commencé très tôt, ouais. Et alors, c'est ce qu'on appelle peut-être la maturité, c'est de se dire, bon, moi, j'interprète les poèmes des autres, je voudrais essayer de créer quelque chose, peut-être... mais toujours à partir de l'écrit, hein, puisque j'ai ce fétichisme, de dire, bon, bah, allez, avec des amis, on va se rassembler et on va créer une troupe. Et la notion de troupe, pour moi, elle est capitale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le théâtre tout seul. Hein. C'est véritablement un partage. C'est un partage d'expérience. C'est une chose magnifique aussi. Le théâtre a toujours donné des exemples de vie en commun. C'est, on se pose toujours la question de comment c'est de devenir humain. Tous, on se demande qu'est-ce que c'est devenir humain, qu'est-ce que ça serait de perdre son humanité, hein. C'est les grandes questions du théâtre. Et donc, moi, je l'ai fait avec des amis qui sont ici, avec lesquels on partage, ça s'appelle le groupe Merci. Si vous voulez, je vous répondrai des choses tout à l'heure, si vous avez des questions. Mais voilà, on s'est donné un espace de liberté, d'innocence aussi, d'enfance, où on peut faire des choses qui, apparemment, ne sont pas trop soumises au marché. Quand je dis ça, je rêvasse pas, hein, parce que je sais que c'est pas vrai. Mais disons que le plus possible, on essaie d'avoir de la liberté pour faire des expériences. C'est même pas des spectacles qu'on fait, hein. Nous, on fait pas de spectacle, hein. On partage des expériences et on montre le résultat de ces expériences. Et ça nous a apporté beaucoup de plaisir, par exemple, de sortir du confort du théâtre. Par exemple, Joël, qui est là, ici, un compagnon avec lequel, il a inventé toutes les assises possibles pour qu'on soit mal assis au théâtre. Donc, vous voyez, on fait fort, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on vient dans l'inconfort. Brecht disait ça, d'ailleurs, c'est quand on est dans l'inconfort qu'on sent son corps. C'est quand on est dans l'inconfort qu'on peut vraiment avoir l'esprit critique. Quand on s'enfonce dans son canapé, on se gave, quoi. Donc, on a inventé cet espace de malassis. Hein, donc, voilà, c'est, effectivement, c'est dur à vendre. Mais, voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Voilà, finalement, j'ai passé tous les âges de la vie. Et si vous voulez, après, je peux vous dire un poème. vous voulez que je vous dise un poème? J'ai quand même un peu noté, parce que j'ai peur, je l'ai appris, mais j'ai un peu peur, parce que je l'ai appris hier. je le connaissais un peu de ma jeunesse, mais je l'adore. Ça s'appelle Brise marine. Vous connaissez? De Mallarmé. Parce que je reviens toujours au langage. Mallarmé disait, vous savez, nous, au théâtre, on adore conserver la langue. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la langue se perd. Hein. On est en plein dans la langue des affaires, la langue de la com. Il n'y a plus de langue. Alors, la langue, elle n'est pas forcément lyrique. Hein. Elle peut être très laconique, comme fait Beckett. Mais moi, je suis une amoureuse vraiment de la langue. Et Mallarmé disait qu'il fallait enrichir les mots de la tribu. Vous avez entendu cette expression. Il disait qu'il faut conserver la langue. Et la poésie sert à enrichir les mots de la tribu, puisqu'il y a des mots inventés, il y a des syntaxes complètement... voilà. Et c'est pour ça que je fais un hommage à Mallarmé. Alors, je vous le lis. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que des bateaux sont ivres d'être parmi l'écueil inconnu et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par mes yeux, ne retiendront ce cœur qui dans la mer se trempe, ô nuit. Ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune mère qu'accouche son enfant, je partirai. Steamer, balançant ta mâture, lève l'ancre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par de cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs, et peut-être les mâts, invitant les orages, sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, perdus sans mâts, ni fertiles îlots. Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots. Voilà. C'est beau, non? J'en ai des plus rigolos, hein, mais ça sera tout à l'heure. J'en ai un qui est très marrant, mais on le fera tout à l'heure. Voilà, ben j'ai fini. C'est l'heure de se... Faut se démasquer, hein, pour redevenir social.
Merci Solange. Je propose de poser toutes les questions que vous avez en tête à Solange, je vais en profiter. Donc Solange se démaquille, je dis qu'on a beaucoup appris en fait du groupe Merci dans l'inconfort, donc là, on a vraiment respecté la règle. Donc j'espère que vous étiez le plus inconfortablement installé ce matin. Donc je vous laisse poser
allez-y, des questions. Allez-y, posez-moi des questions. Mais les questions, soyez pas intelligents, hein. Tout ce qui vous vient. Tout ce qui peut vous venir, hein, même des conneries, on est là pour ça, hein, nous, on adore la connerie. Hein, soyez cons. Mais ils n'osent pas être cons.
Il
hein,
n'y a pas de question cons.
Ils n'osent pas. Mais peut-être que j'ai tout dit, en fait.
Je ne sais pas si c'est con, mais vous parliez de la création...
Oui, bien sûr. Vous avez raison. J'ai pris les phrases de Louise Bourgeois parce que je me sens vraiment en accord avec ça. C'est le besoin de transposer des douleurs et tout. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Il y a des gens qui ont eu des enfances très, très heureuses, tout a été heureux, puis qui sont très créateurs. Hein. Effectivement, vous avez raison. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être le ludique, s'amuser avec les choses, les subvertir. Je pense que c'est un besoin qu'on a de ne pas accepter la réalité. Mais bon, je me méfie maintenant du mot créatif. Hein. Je ne voulais pas vous le dire hein, au réveil créatif, mais... Je me méfie parce que dans les bureaux, il y a plein de créatifs. Hein. Vous savez, c'est le mot à la mode. Alors, on engage des créatifs pour inventer des nouveaux systèmes financiers, encore bien plus. Donc, j'ai préféré le mot création à créatif, voilà. Et la création, effectivement, elle peut partir peut-être de... Mais en tout cas, elle part toujours de, je pense, de sensations. C'est un travail sur les sensations. Et d'ailleurs, dans le mot sensation, il y a le mot sens. Et souvent, on se dit... Je voudrais trouver du sens au théâtre. On dit, je veux trouver du sens. Mais vous savez, moi, je pense qu'on confond. Quand on dit, je veux trouver du sens, on voudrait trouver de la rationalité, un sens rationnel. Et la rationalité, c'est bien pour quand on fait des articles d'enquête ou quand on... La rationalité, on en a tous besoin. Mais moi, quand je dis sens, c'est vers où ça va. Vous voyez, c'est une espèce d'obsession qu'on a. Alors... Effectivement, ça peut partir peut-être d'une chose heureuse ou tout simplement d'une petite inadaptation, j'en sais rien. Mais c'est une obsession, c'est obsessionnel, c'est vers où ça va. On développe quelque chose qu'on n'a pas encore pu formuler. Enfin, je pense, parce que si quelqu'un savait le tableau qu'il allait peindre, il ne le ferait pas, il ne le peindrait pas. Et au théâtre, justement, il y a un malentendu parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire. Alors les gens, ils répètent ce qui a marché. Je suis les peintres aussi, hein, mais ils répètent ce qui a marché. Alors que nous, on se dit toujours qu'on va se mettre en danger. Bon, ce matin, par exemple, j'ai pris le ridicule de me mettre mon masque purifiant, voilà, devant vous. Donc, j'ai pris un petit risque, hein, c'est tout relatif, mais j'avais vraiment peur d'être ridicule quand même. Avec ma chemise de nuit. Qui fait un peu, d'ailleurs... c'est une chemise de curé, alors elle est entre le mystique et l'art. Et le... J'ai répondu. Hein? La colère. Oui, ben moi j'étais très en colère. Je pense que la colère c'est un mauvais sentiment. Hein. C'est quelque chose de dangereux, cette violence. Et d'ailleurs, le théâtre aussi, au passage, il est là pour harmoniser tout le théâtre antique. C'est ça, c'est comment on va pouvoir gérer la sauvagerie qui est en nous. Parce qu'il faut qu'il y ait du sauvage, sinon on n'est pas vrai. Il y a du sauvage en nous, mais c'est comment on va le gérer. Moi, je le gère très mal, hein, je dois dire. Ça, c'est vrai. Je suis quelqu'un plutôt de violent et d'en colère, mais... Bon, il y a une chose qui contrebalance, c'est l'humour. Voilà, c'est... Mais je pense qu'effectivement, tous les militants, les gens qui veulent changer le monde, ça part d'une colère contre l'injustice. Hein. L'injustice, c'est le fond du théâtre aussi. La première pièce qu'on a écrite, c'est Antigone, et le thème, c'est la justice. Elle a le droit d'inventer des lois, puisque les lois sont mauvaises. Elle enterre son frère, alors qu'elle n'a pas le droit de l'enterrer. Et donc, si vous voulez, la justice, c'est le fond. C'est plus que... Enfin, le fond du théâtre, c'est la justice plus que l'amour. Donc, voilà, c'est une méditation qu'on peut tous faire où on met le curseur dans la... où est-ce qu'on met le curseur dans nos colères? Je ne sais pas, peut-être vous auriez quelque chose à dire sur la colère?
Non, c'est parce que je me ressens dans ce que vous faites. C'est pas un reproche.
Oui, oui. Mais je pense que tout le monde a de la violence à gérer. Hein. C'est une question que le théâtre pose à la communauté. Comment on gère notre violence, tous nos instincts, tout en restant vrai. Ouais. Oui, oui, bien sûr, oui. Dramaturge, c'est pas pareil que metteur en scène, hein. Dramaturge, c'est celui qui écrit des pièces. Oui, j'ai eu plusieurs influences. Moi, j'aime beaucoup Chéreau et Vitesse. D'ailleurs, on dit souvent que ça ressemble à du Vitesse, mais pourtant, je n'ai fait que regarder ces spectacles. Voilà, on pourrait dire Chéreau, Vitesse. Oui. Vous savez, il y a deux grandes influences au théâtre. C'est Artaud, d'un côté, qui, lui, justement, à côté... il travaille sur les peurs, l'apparition, les sensations, le sensationnel, tout ce qui nous saisit, les saisissements. On pourrait dire que Castellucci dépend d'Artaud, par exemple. Alors qu'il y a eu tout un courant qui était plutôt brechtien. Alors le courant brechtien, c'est plus la critique sociale, etc. Et nous tous, on est écartelés, et nos spectacles, je pense, en témoignent, on est écartelés entre ces deux tendances. La tendance, voilà, à être saisi par les sensations, sans forcément raisonner. Et puis Brecht qui nous montre le monde, qui nous le décortique et qui dit, regardez-le et vous pourrez le changer. Donc, mais je pense que je suis plus du côté d'Artaud que de Brecht quand même, malgré que j'ai cru longtemps que j'étais du côté de Brecht. Alors, on ne se connaît pas finalement. Oula, l'émergence d'une pièce. Moi, ça pose. Enfin, Joël, par exemple, qui co-dirige avec moi, lui pourrait partir de quelque chose qui n'est pas du texte. Mais je vous ai dit, moi, j'ai un fétichisme. Vous voyez, là, par exemple, j'avais besoin. J'ai pas dit la moitié de ce que j'ai écrit sur mon cahier. Mais j'ai besoin du mot écrit, de cette chose-là. D'ailleurs, on est entouré de livres, c'est symbolique. Je suis désolée, j'ai oublié qu'il y avait des gens derrière. Oh non, mais c'est honteux, ça. Au théâtre, on n'est pas derrière. J'aurais dû me mettre comme ça. Je suis désolée. Je n'ai pas réalisé. Oui, alors, on est entouré de livres, ici. Et c'est le temple du livre. Et ce n'est pas par hasard. Moi, je pose un livre sur la table. Mais ce livre, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément une pièce de théâtre. Par exemple, dans Europeana, c'était un roman. Une sorte de roman. Où ça peut être... un ensemble d'écrits. Vous savez, c'est un peu la mode, ce qu'on appelle les matériaux. Donc, on prend les matériaux, et puis on va... je ne sais pas comment vous dire, cette obsession dont je parlais tout à l'heure, ça peut durer 1 ou 2 ans. Quelquefois, ça dure 10 ans. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on est prêt à se lancer dans le vide. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va sauter quand il nage. Alors... il faut quand même surmonter sa peur, être prêt. Mais il ne faut pas tout savoir. Parce que si on sait comment on va le faire et tout, on n'est pas dans la création. La création, c'est véritablement des surprises. C'est jouer avec la surprise aussi. C'est jouer avec des agencements qui nous surprennent nous-mêmes. Donc, à la fois, on médite longtemps, on tourne autour. On tourne autour avec des obsessions, on partage une obsession, et puis à un moment donné, moi j'aime aller vite. Voilà. Il y a des gens qui répètent 2 ans, moi j'aime pas. Je sais que 2 mois déjà c'est long pour moi. Voilà. Alors je sais pas après, est-ce que j'ai répondu ?
Si tu as dit, moi je travaille avec votre troupe.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ? On est comme une bande qui à la fois se sépare jamais et se supporte plus, quoi. Moi, ouais, une bande. C'est une bande. Une bande, alors... en général, on s'amuse bien, quand même. C'est plus... autant ça peut partir d'un traumatisme, autant je pense qu'on a tous de l'humour, j'espère, et on dit que c'est la politesse du désespoir, vous connaissez la phrase. Donc... Avec humour. Si on n'arrive pas à trouver l'humour, en général, on ne le fait pas. Par exemple, dernièrement, vous voulez parler de la guerre, ça nous a tellement démoralisés qu'on a laissé tomber. Voilà. On a laissé tomber tellement c'était traumatique et ce qui nous prépare est tellement incroyable qu'on ne sait pas comment le mettre sur le théâtre. Parce que je pense que le théâtre, quand même, ça... autant ça ne peut pas être qu'un divertissement, autant il faut que ça contienne du divertissement. Ça a plusieurs couches, mais si on s'ennuie, si on s'emmerde, si c'est une thèse, faut pas le faire, quoi. Faut pas le faire. Donc, avec notre humour, on essaie de. Alors, trouver une forme, ce qu'on appelle trouver des formes. C'est très bizarre cette histoire de forme parce qu'il y a toujours un truc qui traîne. Vous savez, on a l'impression quand on est au cinéma qu'on est devant de la réalité. On se dit, ah ben ouais, il est dans sa cuisine, là, il va aller dans son salon, il va se coucher, il va, voilà, quelqu'un va rentrer dans la pièce. On a l'impression que c'est du réel. Or nous, par exemple, en tout cas au théâtre, tout est recomposé. Tout est refait. Il n'y a rien de naturel au théâtre. Tout est composé comme une BD. C'est-à-dire, c'est des moments, vous savez, qui contractent énormément d'énergie, énormément de symbolique, énormément de... Oui, ça contracte une énergie. Et donc, il faut y mettre, nous-mêmes, beaucoup d'énergie pour un moment qui vous apparaîtra, vous, très simple. Hein ? Donc, c'est trouver ces transpositions, trouver ce qu'on appelle les formes. Alors, dans le jeu, par exemple, vous avez entendu parler du jeu clown, par exemple. Nous, on est très clownesque, malgré tout. Donc, vous savez, jouer comme dans la vérité ou jouer clown, c'est pas pareil. Mais ça demande un travail. Moi, j'ai pas osé. Ce matin, je me disais, je vais faire le clown. Puis après, j'ai dit, oh non, attends. Il faudrait répéter, hein, parce qu'on fait pas le clown comme ça. Il faut 6 mois pour faire un numéro de clown. Donc, tu vas pas... Voilà. Donc, j'ai pris le parti de la simplicité. Mais, en fait, la forme, les formes, c'est vraiment notre travail. C'est-à-dire, on codait l'histoire des formes avant nous. Quelqu'un nous a demandé tout à l'heure de qui j'étais influencée. Chéreau, il a fait rupture. Il a fait rupture avec ce qu'il y avait avant. Vous voyez, il y a des ruptures dans l'histoire de la littérature. Par exemple, tout le monde connaît les dadaïstes qui ont fait rupture. Nous, dans la littérature théâtrale, c'est du fragment. Les pièces, quand on les lit, on ne comprend rien parce qu'il n'y a plus les personnages, il n'y a plus d'histoire, tout est déstructuré. Quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude ne pourrait pas lire une pièce de théâtre contemporaine. Hein, on n'y comprend rien. Mais quand on le fait, quand on le met en jeu, ça devient tout clair. Au fond, ça résiste à la dramaturgie et à l'analyse. Au fond, les auteurs qu'on monte et résistent à la dramaturgie. On se gausse de dramaturgie, etc., mais ça résiste. Et donc, c'est en le faisant, oui, l'art est une expérience, je disais tout à l'heure, on partage des expériences. Donc, voilà, on travaille autour de formes. On se dit, ah ben non, on ne va pas faire du vieux théâtre, je rentre par les portes vont claquer, voilà, il va se passer un scénario, on va sortir. Non, on cherche des formes parce qu'on connaît les formes qu'il y a eu avant nous. Et pareil, je pense, pour la peinture. Hein. Sinon, effectivement, un peintre qui ferait des bouquets de fleurs tranquillement, peut-être on dirait que c'est un peintre du dimanche, j'en sais rien, il peut être très bon. Mais bon, voilà, il est... Alors, c'est une énigme aussi, parce que, par exemple, il y a l'art brut. Un jour, on était à Lausanne, on est allé voir un musée d'art brut, et alors là, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire de la création. Mais ils sont tellement mal, justement, ils ont un tel trauma, un trou dans le corps, quoi. Et donc, ils font des choses, mais surprenantes, hein, pour survivre. Et c'est un mystère, parce qu'eux, ils ne connaissent pas l'histoire des formes. Donc, vous voyez, les choses s'affrontent, hein, la manière qu'on a de voir ce qu'on appelle les formes, s'affrontent. Mais en tout cas, c'est pas comme ça vient. C'est pas, allez, je mets en scène, je raconte bien l'action. Il y en a des metteurs en scène, hein, comme ça, ils mettent bien en place, c'est super. Mais c'est du vieux théâtre, nous on appelle ça du vieux théâtre. Ça nous parle pas, parce que même dans la langue, il n'y a pas de modernité. Dans l'espace, il n'y a pas de modernité. Par exemple, le décor, c'est toujours je sais pas, c'est toujours quelque chose qui représente notre culture, un décor. La culture d'aujourd'hui. Sinon, si c'est un vrai mur avec un escalier, tout le bazar du 19e, alors voilà, c'est un décor empaillé, quoi. C'est de la taxidermie. Hein. On en parlait.
Ça veut dire qu'il y a une grande place de l'imprévu est important dans le travail sur les forces ?
Complètement imprévu. Imprévu, c'est curieux parce qu'on connaît l'histoire d'avant nous, mais. Il faut faire. Vitesse disait un truc magnifique. Il disait le théâtre est une citadelle imprenable. C'est-à-dire, on n'arrive pas à l'apprendre. Par exemple, je veux monter Le Roi Lear, mais j'ai que 3 acteurs. Et j'ai pas de décor. Alors, il faut le faire quand même. On veut raconter un roman de 2000 pages, mais on n'est que 5, et puis on n'a rien. Eh bien, on le fait quand même. C'est-à-dire, moi, je dis toujours ça, c'est une citadelle imprenable. C'est-à-dire, allez, on va essayer, avec ce qu'on a, de faire quelque chose. Et il arrive toujours des surprises. Et moi, ce qui a été le plus beau dans ma vie, c'est quand je me suis surprise moi-même. Notamment dans Trust, et ça, ça vient de Joël, c'est que Joël, qui ne connaît pas le problème de la voix, là, par exemple, moi, j'ai un micro, là. Mais sinon, vous ne pourriez pas être derrière moi. Il faut que je voie vos yeux. Je m'adresse à des yeux. Moi-même, c'est par mes yeux que vous m'entendez. Quelqu'un dont on ne verrait pas les yeux, vous ne comprendrez pas ce qu'il dit. Donc, nous, on le sait, ça. Bien qu'on ne soit pas frontal, on se débrouille, on fait des ronds, on se tourne. Alors voilà, j'aurais dû faire comme ça, hein, tout le temps, normalement. Et en fait, lui, il a eu l'idée de faire un décor en carré. Alors là, j'ai cru que j'allais mourir et m'arracher les cheveux. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. Et puis que moi, du théâtre en carré, pour moi, c'est impossible. Le cirque, oui, mais pas le théâtre. Le théâtre, il faut voir les yeux. Et alors, bon, ben, on était dans un grand espace, etc. Et finalement, on faisait des ballets. Parce que lui, dans sa tête, il disait, ben, on n'a qu'à faire des ballets. Mais au bout d'un moment, comme on n'est pas Pina Bausch, comme moi, je... c'était vraiment nul, quoi. C'était... Voilà, j'aurais eu honte, quoi. Des ballets. Bon, alors, du muet, on a essayé, par exemple, que les acteurs arrivent et comme ils reviennent d'un voyage, ils vomissent. Bon, mais enfin, c'était chiant, quoi, quand même. Donc, moi, j'ai réécrit des textes et j'ai pris dans les textes de l'auteur. J'ai toujours le fétichisme de l'écrit. J'ai dit, bon, ben, ça y est, on va le mettre dans l'oralité. Et ben, on n'entendait rien. Puisque les acteurs étaient tout le temps de dos. Il y en avait que... Vous êtes assis dans un des carrés, mais vous n'entendez pas ceux qui sont là-bas au fond. Donc, il a fallu qu'on commande des micros. Et c'est la première fois qu'on a mis des micros au théâtre. Parce que normalement, ça ne se fait pas. C'est quand vous allez à l'opéra et tout, peut-être que l'espace maintenant est un peu sonorisé, mais normalement, c'est la voix porte toute seule. On n'a pas besoin de mettre de micro. Nous, on est habitués à la voix nue, quoi. Et alors, donc, c'était très rigolo parce que, à la fin, c'était entre des ballets, entre des textes écrits. Enfin, bref, c'était quelque chose que vraiment, j'avais jamais imaginé et vu. Et ça, ça m'a vraiment surpris, par exemple, au niveau forme. Et je pense que ça marche bien en carré, en plus. Hein ? Ça vous a plu, oui ? Et donc, voilà, ça, d'où l'histoire de la querelle aussi entre ballet, ne pas parler. Vous voyez, on a toutes... moi, je viens vraiment de l'écrit et donc de mettre de l'oral, de mettre de la langue. Hein, la langue, c'est pas... La langue, c'est pas les mots du quotidien. La langue, c'est des mots presque qui vont vers le chant, vers la forme, hein. Et donc, c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire quand j'étais petite, que je faisais l'étoile. Et donc, c'est une expérience, quoi. Le verbe, on dit que c'est quand c'est incarné. Ça ne veut rien dire, parce qu'évidemment, ce n'est pas dans notre chair, mais c'est une façon de l'avoir avalé. On avale le verbe, et puis, tout d'un coup, il prend une dimension de chant. Et là, alors là, en carré, vous pouvez y aller, hein, s'il n'y a pas de... Autant ça exalte les corps au cirque. Mais là, nous, c'était cata. Catastrophe.
Tu avais un circassien.
Hein ? Oui, en plus, on avait... Mais lui, il ne nous a même pas alertés. Hein. Oui.
C'était presque une expérience mystique, cette histoire d'étoile.
Ben oui, enfin bon. Je ne me prends pas pour Claudel. Hein. Mais je me rappelle ce truc d'élévation. Et pourtant,
c'était en plus dans une église.
Dans une église. Alors c'était le rituel. Ce théâtre est très rituel, donc est hérité du rituel religieux. Donc il y avait à la fois ça, ce côté rituel égale répétition. On a répété quelque chose qui est une cérémonie. Hein, et puis ce côté sortir du corps, parce qu'en fait le problème des acteurs c'est pas d'être dans le corps, c'est de sortir du corps. Notre prof d'acrobatie, elle me disait tout le temps ça, elle disait l'important, c'est d'avoir un corps très, très bien vivant pour pouvoir en sortir. Parce que c'est vraiment une expérience comme ça, c'est l'imaginaire. Si je deviens le printemps, moi, avec tout ce que comporte le printemps, le dégel, les sources, et qu'on me dit, bah, fais les cris du printemps, vas-y, allez, vas-y, fais le printemps. Hein ? C'est dur à faire. Et donc, il faut être branché sur ses sensations d'enfance. C'est le coup. Et alors, on sort du corps. Si vous faites, je ne sais pas, si vous exercez à faire un animal, vous sortez de votre corps, carrément. Donc, c'est une dimension. C'est pour ça que je voulais raconter, parce que c'est complètement cul. Hein. Tous les gamins ont fait des trucs comme ça. Mais je me rappellerai toute ma vie de cette sensation de sortir de mon corps et de renaître, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, ouais.
Peut-être une dernière question.
Ah, c'est bien, on a tout dit.
On conclut. Bah, écoute, merci beaucoup Solange pour ton intervention. Merci à vous de votre présence aujourd'hui. Merci à Ombre Blanche et à Aliénor de nous accueillir aussi inconfortablement. Je plaisante. Merci à toute l'équipe Réveil Créatif. Donc, Eloa qui fait le coaching des invités, la préparation d'invités. Romain qui est derrière la caméra ce matin. Fred.
Je dois être toute seule, non ?
Le relais sur les réseaux sociaux, hein, avec Régis. Olivier qui a fait le son. Et là, ceux derrière, il y a Romain numéro 2, donc avec l'appareil photo autour du pont. Jacques qui vous a accueilli tout à l'heure. Et puis Anne et Carole qui ont préparé le petit déj. Et puis il y a Jasmine qui était là ce matin pour accueillir, qui fait des petits dessins en direct. Et donc, les dessins, la vidéo, etc. Vous retrouverez tout ça sur notre site internet. Donc, vous verrez aussi les prochains rendez-vous. Donc, rendez-vous le mois prochain. On a une petite incertitude sur la date et le lieu, mais tout ça, c'est parti du jeu. Donc, ça sera précisé là, dans les jours prochains. On reste un peu dans le théâtre, dans le spectacle vivant. On recevra Lou Broquin, qui fait du spectacle jeune public, et qui fait du spectacle jeune public sans tabou et intelligent. Donc, elle a des choses tout à fait intéressantes à nous dire. Voilà. Et après, sur les réseaux sociaux, sur le site internet, vous pouvez trouver l'actualité de Réveil Créatif. Merci beaucoup.
Bon. J'espère que je ne vous ai pas rendormi. Ha, 'est un peu quand même endormi, hein, tout ça.
Toujours passionnant.
C'est vrai, ça t'a plu.
Hein? C'est très bien. Cette formule de conférence, c'est très intéressant.
Bon, c'était...
Ces expériences de vie sont riches.
Tant qu'à faire,
oui.
Pour raconter de l'intime, hein, au réveil. Le jardin secret. Bon, je ne sais pas ce que ça donne en film, mais...
Je vous libère.
Oh, j'étais désolée que vous soyez derrière, là-bas. Oh là là.
Mais il me fallait le plan avec les...